Sunwa Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier d'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La plupart des hommes vivent en sa compagnie une bonne cinquantaine d'années sans se soucier d'elle, alors que depuis longtemps déjà, discrètement, leur prostate travaille pour eux en produisant un liquide qui entre dans la composition du sperme et qui est donc indispensable à la reproduction. Et puis, cela change lorsqu'un certain nombre de troubles apparaissent. Gêne, envie pressante d'uriner, troubles de l'érection. Ces symptômes, souvent liés à l'âge, doivent inciter les hommes à consulter, même si la question reste taboue en raison, bien sûr, de la localisation de cette glande, au sujet de laquelle les hommes s'épanchent plutôt rarement, tabou du fait qu'aux yeux du grand public, elle est associée à une maladie, le cancer de la prostate, premier cancer masculin, tabou encore, en raison de l'examen associé au dépistage, le toucher rectal. Mais quelles qu'en soient les causes, ces réticences doivent être dépassées car en cas de trouble de la prostate, eh bien des solutions existent. Et d'ailleurs, avant l'apparition de symptômes, il est également essentiel d'en parler car les gestes de prévention, eux aussi, existent pour une bonne santé, des pieds à la tête, en passant par la prostate. En parler, posez vos questions au 33 84 22 75 75 ou sur la page Facebook de l'émission. Et pour répondre à ces questions, professeur François Desgrandchamps, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis de Paris. Vous avez signé, professeur Desgrandchamps, le livre « La prostate, on en parle » chez Hachette Bien-être et bientôt en format de poche chez Marabout. Et tout à l'heure, nous, on va retrouver au Cameroun le docteur Édouard Hervé Moby, qui est chirurgien urologue et directeur de l'hôpital régional de Nkunsamba. Et puis en fin d'émission, on va parler du forum régional VIH et handicap qui se déroule à Praia, au Cap-Vert, demain, le 25 juin. On va retrouver Célina Ferreira, secrétaire exécutive de la lutte contre le sida, justement à Praia, au Cap-Vert.
Priorité santé sur RFI.
On a déjà associé dans l'introduction, tabou, prostate. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est toujours quelque chose que vous constatez lors de vos consultations, professeur François Desgrandchamps, ou les temps changent?
Non, les temps ne changent pas. La prostate est toujours symbole de virilité. Et puis les affections de la prostate, symbole de dégradement en fait de la virilité, voire de la propreté, avec les risques de fuite d'urine, etc. Et donc il faut changer cette image, bien évidemment, puisque ça n'a plus lieu d'être. Et donc il y a tout un travail de psychologie à faire autour des patients qui doivent être traités soit pour l'adénome bénin, soit pour le cancer, sur l'idée que c'est pas parce qu'on est traité de la prostate qu'on n'est plus un homme. Et souvent c'est ce qu'il y a dans le fond de la tête des hommes. Quand on les a opérés de la prostate, ce ne sont plus des hommes. Voilà, donc il y a un gros travail à faire.
Alors justement, dans ce rapport qu'entretiennent les hommes avec cette partie de leur anatomie, est-ce que voyez-vous une évolution dans le cours de votre consultation? On va dire le premier temps, première consultation, la découverte, l'information, et puis finalement un travail de familiarisation avec son propre corps.
Oui, il y a un énorme travail, et c'est pour ça que votre émission est très bienvenue. Il y a un énorme travail de pédagogie et d'information. Et à partir du moment où on explique la pathologie, où on explique les éventuelles conséquences des traitements, le patient adhère complètement à sa prise en charge. Mais il y a un gros travail. Et souvent, les patients minimisent leurs symptômes. Ils ont tellement peur d'être opérés, qu'ils vous disent, voilà, j'ai pris rendez-vous, mais quand j'ai pris rendez-vous, j'étais très gêné. Là, depuis 2 jours, ça va vraiment très bien.
Et peut-être que ça ira bien après, en tout cas. Justement, sur ces symptômes, sur ces signes, c'est quoi les maux, c'est quoi les troubles qu'on vous rapporte, professeur François Desgrandchamps? Qu'est-ce qui pousse les hommes à consulter?
Alors, il y a, pour ce qui est de l'adénome, donc quand la prostate grossit, les hommes viennent parce qu'ils ont des difficultés pour uriner. Et donc, on commence à en parler, on explique, on fait des schémas. Et puis, c'est en fin de consultation qu'arrive un peu le fond du problème, et, ou le cœur du problème, qui sont les troubles de l'érection. Parce qu'un homme sur deux qui a des problèmes pour uriner a des problèmes d'érection. Et l'homme est pudique, très très pudique. Et donc, il vient un peu du bout des pieds parler de ses problèmes urinaires, mais si on ne va pas chercher les problèmes sexuels, il risque de ne pas en parler, alors que c'est la motivation profonde de la consultation. Donc, un homme sur deux qui a des problèmes urinaires a des difficultés sexuelles. Comme vous l'avez dit, ça peut être lié à l'âge, mais c'est aussi lié à ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui est en fait des modifications de tout l'organisation du corps due à la sédentarité, à la prise de poids qui arrive autour de la cinquantaine quand le ventre commence à s'épaissir. Et ben on a du diabète, des problèmes de cholestérol, d'hypertension et également des problèmes d'érection et de prostate.
Ça veut dire que c'est une partie de votre travail justement d'amener cette parole sur ces questions précises?
C'est une grande partie du travail de faire parler de la sexualité les hommes qui venaient pas officiellement pour ça mais qui en fait au fond voulaient qu'on en parle, et un travail d'éducation, de bonne santé générale, la prévention de tout ça, c'est l'exercice physique et la perte de poids.
Et qu'est-ce que vous constatez, professeur Desgrandchamps, du côté de l'âge moyen de ceux qui viennent vous consulter?
L'âge moyen est autour de 63-64 ans, que ce soit pour l'adénome ou pour le cancer de la prostate.
Et pourtant, à partir de quel moment vous diriez qu'il faut écouter davantage son corps pour voir s'il y a des évolutions à ce niveau-là?
Alors, il y a deux points. Le premier point, c'est pour le cancer de la prostate, il y a un dosage à faire d'un marqueur de risque de cancer qui s'appelle le PSA, et c'est bienvenu de le faire juste avant 50 ans, parce que quand il est bas, en dessous de 1, il n'y a pas de problème pour le restant de ses jours. Après, pour l'adénome de la prostate, une façon de bien prévenir, c'est en fait de bien vieillir en bonne santé, donc de faire attention. L'âge venant ne pardonne plus les excès, et donc faut faire attention de garder un poids correct, une activité physique régulière, et il a été montré, notre équipe a montré aussi qu'il y a une relation entre le tour de taille de l'homme et la taille de sa prostate, et beaucoup d'équipes ont montré dans le monde que on peut prendre des médicaments pour l'adénome de la prostate, mais si on prend une bonne paire de baskets et qu'on va marcher 3 heures par semaine, bah, les problèmes de prostate vont diminuer.
Donc il y a une vraie dimension de prévention, ça veut dire que avec une certaine hygiène de vie, aussi un facteur héréditaire, bien évidemment, professeur Desgrandchamps, on peut éviter les troubles de la prostate.
Absolument, une bonne hygiène de vie retentit de façon, efficace, à la fois sur l'adénome, mais également sur le cancer, parce que le cancer de la prostate a aussi beaucoup de facteurs diététiques.
Alors justement, l'adénome, vous avez dit le mot, il n'est pas forcément connu du grand public. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme?
L'adénome, c'est juste la prostate qui grossit. La prostate, c'est une glande qui est traversée par l'urine, c'est une glande creuse. Et donc, lorsque la prostate grossit, elle peut soit grossir vers l'extérieur en laissant le passage des urines. Les hommes ont une grosse prostate, ils le savent pas et c'est pas la peine de le savoir. Mais quand la prostate, parce qu'il n'y a pas de traitement et c'est comme ça, c'est l'évolution normale du corps. Mais quand la prostate grossit en serrant le canal urinaire au milieu, à ce moment-là, les symptômes arrivent. Et c'est à peu près 20% des hommes. Tous les ou une grosse prostate en vieillissant. La prostate, sans qu'on sache pourquoi, se remet à grossir à partir de 50 ans. Et pourtant, il n'y a que 20% des hommes qui le savent, qui le sentent, qui ont des problèmes urinaires, qui se feront soigner. Et donc, le corollaire de ça, c'est que quand dans un examen, on vous dit que vous avez une grosse prostate, ce n'est pas une maladie d'avoir une grosse prostate. La maladie, c'est d'avoir une grosse prostate qui gêne la sortie des urines et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, qui commence par donner des envies pressantes d'uriner la nuit, enfin fréquentes d'uriner la nuit, puis après des difficultés pour vider sa vessie.
Et justement, quand elle augmente de volume, la prostate, les médecins le constatent à l'examen, les hommes ne le ressentent pas
non,
dans leur
absolument
corps.
Pas. Absolument pas. On peut avoir une la prostate normale, c'est 20 grammes. On peut avoir une prostate de 200 grammes sans le savoir.
Il peut aussi y avoir des troubles infectieux.
Ils sont beaucoup plus rares. Ils arrivent, mais ils ne sont pas spécialement liés à la taille de la prostate. C'est comme les infections urinaires de la femme, c'est les germes qui remontent et qui contaminent la prostate. C'est indépendant de la taille de la prostate.
Alors tout à l'heure, je parlais justement de ce facteur héréditaire génétique. On va reparler plus longuement, bien sûr, du cancer et des risques de cancer de la prostate. Mais j'ai une question Facebook d'un auditeur de Lubumbashi en République démocratique du Congo. C'est Emmanuel qui demande, est-ce que la tumeur de la prostate est héréditaire? Je m'inquiète car mon père en souffre. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à Emmanuel?
Alors, il y a des formes de facteurs favorisants héréditaires de cancer de la prostate, mais elles ne sont pas fréquentes. Et pour avoir un vrai risque d'avoir soi-même un risque de cancer de la prostate, alors que ses aïeux en ont eu un, il faut que les cancers soient survenus jeunes et en même temps qu'il y ait deux niveaux de cancer dans la famille. C'est-à-dire, en fait, un frère et un père, etc. C'est pas là le cas de cet auditeur. C'est pas parce que son père a eu un cancer de la prostate qu'il est à risque de cancer de la prostate.
Ça manque de précision. Si on savait si quelqu'un d'autre était touché dans sa famille, par exemple, ça pourrait nous donner davantage d'indications.
Et encore, on n'a toujours pas isolé de gènes. Il n'y a pas un gène de prédisposition. Ce sont des facteurs de risque.
Alors, on va prendre les auditeurs dans quelques instants. Juste avant cela, j'ai encore deux questions Facebook qui sont très intéressantes, qui concernent notamment le lien entre l'activité sexuelle et la santé de la prostate. Professeur Desgrandchamps, Cameroun Yaoundé Jean-Marie nous demande, est-ce que la masturbation a des effets néfastes sur la prostate?
Alors, la masturbation n'a aucun effet sur la prostate, mais l'éjaculation, oui, si on veut dire. Il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que plus on éjacule, globalement, moins il y a de cancer. Il y a plein d'études qui l'ont montré, après pas mal de controverses. Si on éjacule, alors le niveau est assez élevé, mais si on éjacule plus que 20 fois par mois, à ce moment-là, on a deux fois moins de risque de cancer.
Et une autre réponse en lien justement avec la sexualité, c'est Ansouman, hein, qui est à Cancan en Guinée, qui nous dit, y a-t-il un lien entre la fréquence du rapport sexuel, je pense que la réponse on l'a comprise, voilà, et les maladies de la prostate?
Eh bien oui, alors de deux points. La fréquence des rapports sexuels, donc la fréquence de l'éjaculation, on l'a dit, diminue le risque de cancer, mais il faut faire attention d'avoir des rapports sexuels propres, si je puis dire, c'est-à-dire que le risque de maladies sexuellement transmises augmente, bien sûr, le risque de prostatite, et la prostatite peut faire le lit du cancer, donc il faut avoir une activité sexuelle régulière et protégée.
Voilà, ben comme pour toutes les activités sexuelles, pour toutes les parties du corps en général. On va tout de suite prendre les auditeurs en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Et le premier de ces auditeurs est en ligne de Côte d'Ivoire, c'est Michel. Bonjour Michel.
Bonjour madame.
Le professeur Desgrandchamps est à votre écoute, allez-y.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame, bonjour monsieur.
Bonjour.
Écoutez, j'ai 71 ans, j'ai été opéré de la prostate il y a une dizaine d'années, et depuis je n'ai plus de gènes, j'ai une vie normale. Mmh. Et récemment, donc en mai 2017, j'ai fait un examen de spermatogramme,
oui,
qui révèle que j'ai 24% de spermatozoïdes qui montent,
oui,
en flèche,
oui,
et le reste, bon, ben, il reste un petit peu, il progresse lentement.
Oui.
Alors, mon souci, c'est de savoir est-ce qu'avec ce taux, et à mon âge, est-ce qu'on peut estimer qu'on est encore fertile? Ce que je vis avec une jeune femme de 26 ans, je ne sais pas si je peux encore avoir un enfant avec cette jeune femme, de façon naturelle.
Oui, donc s'il y a des spermatozoïdes sur le spermogramme, vous êtes encore fertile. Un seul suffit, hein, pour faire un bébé. Après, est-ce que votre cas est intéressant parce que il illustre ce qui se passe longtemps après les opérations de prostate, je suppose c'est pour un adénome, puisque sinon il n'y aurait pas de spermatozoïdes. Et donc, une fois qu'on a été opéré de la prostate, en fait, la prostate repousse avec le temps. Mais elle repousse tellement lentement qu'elle ne gêne pas les patients. Il n'y a que 10% des patients qui ont besoin d'être réopérés jusqu'à la fin de leur jour, parce que la prostate a trop repoussé. Mais quand elle repousse la prostate, à ce moment-là, le sperme peut de nouveau sortir vers l'extérieur. Parce que il faut avoir conscience que la prostate est un organe essentiel pour l'éjaculation. Et le sperme sort parce que la prostate se referme vers la vessie, vers le haut, et chasse le sperme en se contractant. Et donc, quand on a été opéré de la prostate, l'ouverture vers la vessie est béante, puisqu'on a ouvert le canal pour que les urines passent, on a tellement ouvert ce canal que la prostate peut plus se refermer, et comme elle peut plus se refermer, le sperme passe dans la vessie et le sperme sort plus. Lorsque la prostate commence à repousser, donc 10 ans après, comme ça peut vous arriver là actuellement, à ce moment-là, ben, la prostate peut de nouveau se refermer un peu, et il y a un peu de sperme qui peut sortir.
Voilà pour cette réponse, Michel. On vous souhaite une excellente journée en Côte d'Ivoire. On part tout de suite pour la Guinée, pour Conakry, où nous sommes en ligne avec Samuel. Bonjour Samuel.
Bonjour, priorité santé.
On vous écoute,
bonjour,
allez-y.
Bonjour monsieur.
Oui, bonjour docteur.
Bonjour monsieur.
Moi, en août dernier, lors de mon contrôle de routine, mon médecin m'a fait comprendre que ma prostate prend du volume et que ça augmente. Mmh. Et à mon âge, j'ai 44 ans, alors j'étais très inquiet. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour diminuer l'évolution. Il me dit, le seul traitement, c'est le sport. Est-ce que le sport suffit en soi pour pouvoir arrêter l'évolution d'une prostate?
Samuel, oui. Samuel, est-ce que vous avez pris du poids?
Non, j'ai pas pris du poids.
Et vous êtes d'assez forte corpulence ou vous êtes plutôt élancé?
Je suis élancé, j'ai 1m75, actuellement je fais 90 kg.
Alors, c'est intéressant. Il y a deux aspects pour la réponse. La première, c'est pas parce qu'on a une prostate grosse qu'on est malade. Et il faut la laisser tranquille, votre prostate. Si elle vous gêne pas, c'est normal d'avoir une prostate qui grossit avec l'âge. Alors, 44 ans, c'est peut-être un petit peu jeune pour commencer. Mais si elle ne vous gêne pas sur les problèmes urinaires, il faut la laisser grossir. Après, le deuxième point, votre médecin a parfaitement raison, c'est l'activité physique qui est la seule prévention pour l'augmentation de taille de la prostate. Mais apparemment, vous n'êtes pas atteint de ce fameux syndrome métabolique. Vous êtes assez affûté. Donc oui, la seule chose, s'il y avait une chose à faire pour ralentir l'augmentation de taille de la prostate, ce serait de faire du sport, mais en l'occurrence, ça sert à rien chez vous de limiter la taille de la prostate. C'est normal, si votre prostate grossit, c'est l'âge qui vient, simplement.
Et Samuel, vous aviez fait part de symptômes à votre médecin ou il vous a examiné juste comme ça ?
Non, il n'y avait pas de symptômes, c'est lors d'un contrôle de routine.
D'accord.
Et puis, il faut s'entendre sur la grosse prostate. Hein. Une prostate normale à 20 ans, c'est 20 grammes, mais à 40 ans, 40 grammes de prostate, c'est un peu gros, mais c'est normal. Encore une fois, 80% des hommes ont une prostate qui grossit avec l'âge, et ce n'est pas du tout une maladie.
Et Samuel, le sport, ça vous va comme ordonnance ? Vous en faites du sport ?
Oui, depuis lors, je fais du sport, je fais du vélo, et puis après, il me dit un temps, il faut arrêter le vélo.
Non. Ça aussi, c'est une controverse qui est sans aucun fondement scientifique. Le vélo ne retentit pas du tout sur la prostate. On n'est pas assis sur sa prostate, sur la selle. On est assis sur l'urètre. C'est le canal en dessous. La prostate est beaucoup plus haute. Donc, si le vélo vous plaît, continuez à faire du vélo. Aucune liaison entre le vélo et la prostate.
Voilà. Ben, encouragement pour poursuivre cette activité physique, hein, Samuel. Très bonne journée à Conakry. On part pour pas très loin d'ici, Romainville, la région parisienne où l'on retrouve Samba. Bonjour Samba.
Bonjour, comment allez-vous ?
Ça va bien.
Bonjour
le,
monsieur.
Le professeur Desgrandchamps est
Bonjour.
À votre écoute. Allez-y.
Voilà, donc comme j'avais signalé, moi j'ai eu un cancer plutôt de la prostate détecté à Tunis en 2015. Mmh. Après, en 2017, je suis allé en France pour essayer de voir comment ça évolue. Et j'ai commencé par l'hôpital Saint-Joseph, qui avait eu peur de cette prostate et m'ont proposé d'arrêter le testostérone.
Oui.
Qui nourrit la prostate.
Qui nourrit la prostate, oui.
Voilà, donc ils ont arrêté ça.
Oui.
Et c'est en 2018 que j'ai eu un traitement à l'IGR de 40 séances de radiothérapie.
Oui.
À l'Institut Gustave Roussy, donc pour votre cancer.
Gustave Roussy, oui, tout à fait. Ouais.
Oui.
Voilà, donc j'ai fait un contrôle il y a un mois.
Oui.
La prostate est à 0,03.
C'est parfait.
Le PSA, disons.
Oui, j'avais compris, pardon. Oui, c'est parfait.
Voilà, donc j'aimerais savoir quelles sont les dispositions à prendre pour éviter une rechute, parce qu'elle peut survenir, hein, on ne sait jamais.
Oui.
Voilà.
Ok, donc vous avez eu un traitement qu'on appelle par hormonoradiothérapie, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, la prostate est sensible aux androgènes, à l'hormone mâle, à la testostérone. Et donc, pour augmenter l'effet des rayons sur la prostate, on arrête pendant un certain temps, c'est de 6 mois à 3 ans, ça dépend de l'agressivité des tumeurs, on arrête la testostérone par des piqûres régulières qui la bloquent, la testostérone, et puis on fait des rayons, et donc les rayons sont potentialisés, l'effet des rayons est augmenté par la suppression de la testostérone. Après, donc, pour garantir le meilleure chance de guérison, il y a des précautions à prendre. Le risque de rechute existe, il n'est pas heureusement très important, c'est autour de 20% à peu près. Et donc, pour garantir le maximum de chances de guérison, il faut faire attention à sa diététique. Et donc, en matière de diététique pour le cancer de la prostate, c'est des recommandations assez générales, mais qui s'appliquent vraiment à la prostate, qui sont de réduire les graisses saturées d'origine animale, c'est-à-dire la viande rouge grasse, glace, le beurre, le fromage, la charcuterie. Il faut réduire les produits laitiers. C'est jamais une suppression, mais il faut pas d'exagération. Et puis, il faut augmenter les poissons gras, le saumon, qui apporte les fameux oméga 3. Et puis, augmenter les fruits et légumes, avec en particulier les tomates, qui apportent un lycopène. Le lycopène, c'est un antioxydant qui répare, si on peut dire, les cellules prostatiques. Donc, en fait, pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut faire attention à votre diététique. Faire attention à sa diététique, c'est pas tomber dans l'excès, mais c'est éviter les excès. C'est-à-dire faire attention de ne pas manger trop gras, rajouter du poisson et des légumes dans votre menu, et vous mettez alors toutes les chances de votre côté.
Voilà Samba pour ses conseils. De la sauce tomate, du gazpacho, comme il fait chaud aujourd'hui en région parisienne, on peut aller sur une soupe glacée, ça peut être pas mal. Très bonne journée, Samba à Romainville. Juste une question que je vous pose, moi, quand on a justement ces traitements où on agit sur les hormones, la testostérone, j'imagine que ça a des conséquences sur l'activité sexuelle ?
Très importante, et pas que ça. Bien sûr, la première chose, c'est l'activité sexuelle, mais il y a beaucoup d'autres symptômes. C'est un peu l'équivalent d'une ménopause brutale. Et donc, les hommes ont des bouffées de chaleur, comme peuvent en avoir les femmes. Les hommes, après, ont des os qui se décalcifient, de l'ostéoporose, il y a des risques d'infarctus du myocarde, donc du diabète, il y a augmentation de cholestérol, prise de poids. Ça désorganise beaucoup l'organisme de supprimer la testostérone.
C'est on le supprime sur le long cours ?
Non, c'est le temps du traitement. Lorsque le cancer est malheureusement métastasé, ça permet de ralentir l'évolution du cancer, donc ça peut être à vie. Mais en l'occurrence, pour le cas de Samba, c'est associé aux rayons pour augmenter l'efficacité des rayons. Donc c'est une durée limitée dans
c'est
le
réversible.
Temps. En fonction de l'agressivité du cancer, c'est de 6 mois à 3 ans.
Merci beaucoup pour ces précisions importantes. Kassereka, je l'ai bien dit, il est à Goma en RDC. Bonjour Kassereka.
Bonjour Caroline, bonjour Prof. François.
Bonjour monsieur.
On est à votre écoute, allez-y.
Ok, souvent, juste après avoir fait les petits besoins, je sens que ma vessie n'est pas complètement vidée.
Oui.
Et même pour expulser les urines, il faut que je pousse un peu.
Oui.
Alors qu'auparavant, il suffisait que j'ouvre le robinet, entre guillemets,
oui.
pour que l'urine coule sans difficulté.
Oui.
Alors, on m'a informé que c'est là le signe du problème de la prostate.
D'accord.
Alors, ma question, est-ce effectivement le problème de la prostate? Et si oui, que dois-je faire pour éviter le pire ?
Alors, très bonne question. Monsieur Cassera, est-ce que la nuit, vous vous levez pour uriner ou pas ?
La nuit, je me lève, oui, en fait, deux fois pour uriner.
Deux fois. Et est-ce que la journée, vous êtes obligé d'uriner très souvent, ou c'est simplement parce que c'est difficile de vider votre vessie que vous vous plaignez ?
La journée, bon, la fréquence est normale, à moins que je n'ai quasi plus de l'eau, beaucoup d'eau le matin, là, la fréquence est augmentée.
Donc, en fait, il y a deux diagnostics possibles. Bien sûr, compte tenu de votre âge, hein, vous avez 65 ans. Compte tenu de votre âge, ça peut être la prostate qui grossit et qui vous gêne. Néanmoins, en principe, quand c'est la prostate, les gens se lèvent beaucoup la nuit, donc vous levez deux fois, ça peut être ça, mais surtout la journée, les gens sont gênés par des envies fréquentes d'uriner. Si c'est pas trop le cas, il y a un autre diagnostic qu'il faut avoir en tête, qu'on appelle la sténose de l'urètre. C'est un rétrécissement du canal dans la verge, du canal de l'urètre, qui peut être lié à des infections anciennes. Si vous avez eu des infections, des urétrites avant, ça peut être ça. Et donc, les deux diagnostics possibles, c'est le sténose du canal de l'urètre et la prostate. Comment faire la part des choses? L'idéal, c'est de pouvoir faire une endoscopie, d'aller regarder dans le canal de l'urètre, mais si c'est pas possible, il faut être empirique. Vous prenez un médicament pour la prostate, si ça marche, c'est que c'était bien la prostate, si ça marche pas, ça peut être alors le canal de l'urètre. Le médicament idéal pour vos symptômes sont la famille des alpha-bloquants qu'on trouve partout et qu'on trouve en République démocratique du Congo comme ailleurs, par exemple l'alfuzosine ou tamsulosine, qui sont deux médicaments qui marchent sur la prostate. Donc vous les essayez, ça marche tout de suite, une heure et demie après le médicament, en principe on urine mieux. Si c'est pas le cas, il faut alors envisager que ça peut être un autre diagnostic et donc un rétrécissement du canal de l'urètre.
Kassereka, donc ce qui est important, c'est d'aller voir votre médecin pour qu'il puisse vous prescrire
ce médicament
et que vous l'achetiez bien évidemment, dans une pharmacie. Hein.
Oui, pour éviter les contrefaçons.
Exactement, pour voir si ça peut vraiment marcher. Comme ça, vous aurez véritablement une idée. Vous avez bien entendu les conseils du professeur Desgrandchamps ?
Oui, je les ai bien suivis.
On vous remercie, vous aussi.
Au revoir, monsieur.
Très bonne journée à Goma. On prend un dernier auditeur qui est en ligne de Conakry, en Guinée. C'est Mamadou. Bonjour, Mamadou.
Bonjour.
On est à votre écoute, allez-y.
Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour. Ok, j'ai mon père qui est malade de prostate, là.
Oui.
Il a fait deux rétentions urinaires.
Oui.
Et la dernière fois, il y a eu la sonde qui a été mise, et puis on a enlevé, ça crée beaucoup de problèmes maintenant.
Oui.
Et le médecin dit qu'il y a un début de prostate.
Oui.
Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un lien, il y a une corrélation entre une rétention, la rétention urinaire et la prostate?
Ah, oui,
c'est ce qu'on explique depuis le début de l'émission.
Il y a un lien direct, effectivement.
Entre le cancer de la prostate et ce problème.
Ou même hors cancer, hein. C'est quand la prostate grossit, eh ben, comme l'urine passe au milieu de la prostate pour sortir, si la prostate est trop grosse, l'urine passe plus. C'est ce qui est arrivé pour votre papa. Et l'urine se bloque. Donc, effectivement, le premier traitement, et vous êtes bien soigné pour ça, c'est de mettre une sonde pour pouvoir vider la vessie. Et puis après, on enlève la sonde. Et très souvent, ça repart. 80% des cas, les hommes peuvent uriner de nouveau. Le risque, c'est la récidive. Alors, comment faire attention pour éviter la récidive? Il y a alors des petits points particuliers. C'est par exemple éviter de se retenir pour aller aux toilettes, parce que plus la vessie est distendue, plus elle a du mal à se contracter. Donc éviter de se retenir, et puis éviter de boire beaucoup d'un coup. Un gros afflux hydrique fait que la vessie se distend et après peut plus se vider. Malheureusement, si la rétention est survenue une deuxième fois, le risque est très important d'abîmer sa vessie et de se rebloquer. Et donc c'est plutôt l'heure de l'opération, qui consiste à diminuer la taille de la prostate.
Et ce, quel que soit l'âge du patient, parce que quand on a préparé cette question, justement, Mamadou indiquait que son papa était âgé de 80 ans. L'indication est générale.
80 ans, chez nous, je ne sais pas quelles sont les ressources aussi locales sanitaires, mais 80 ans n'est pas un obstacle pour opérer. Sinon, c'est la sonde à demeure, c'est la sonde permanente. Il y a des médicaments qui diminuent la taille de la prostate, mais ils sont une efficacité relative, mais on peut toujours les essayer. Ils s'appellent, alors c'est un nom barbare, qui s'appelle les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. Et donc, pour votre papa, ça pourrait être un traitement médical maximal qui serait inhibiteur de la 5-alpha-réductase. Donc, c'est finastéride, en fait, hein, finastéride ou dutastéride, plus un alpha-bloquant dont on a parlé tout à l'heure, alfuzosine ou tamsulosine. Mais malheureusement, cette efficacité est relative, et donc, il faut possiblement entrevoir une nécessité d'opération pour votre papa.
Donc, le diagnostic qui avait été fait était bon. Hein.
Bien pris en charge,
ce patient. Donc, retourner pour voir si éventuellement il y a un traitement qui pourrait le soulager dans un premier temps.
Avec des médicaments, et sinon, c'est une opération, absolument.
Voilà, Mamadou. On vous souhaite une très bonne journée à Conakry, en Guinée. On poursuit cet échange avec vous, professeur François Desgrandchamps, chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis de Paris. Il y a aussi des questions des auditeurs qui concernent directement l'anatomie, hein, le lien entre les différentes parties de cette zone urogénitale. On voit que tout n'est pas toujours très clair, et on le comprend tout à fait. On a Josiane, une auditrice, j'imagine qu'elle pose cette question pour peut-être un de ses garçons. Elle est à Jérémy en Haïti. Elle dit, est-ce que le fait de recevoir un choc dans les testicules pendant l'enfance peut provoquer des problèmes de prostate à l'âge adulte?
Non, c'est tout simple. Alors, après, ça dépend quel choc, mais lorsque l'on est castré avant la puberté, je suppose que c'est pas le cas. Hein.
Non, je m'en imagine peut-être même quelque chose au foot ou quoi que ce soit, dans la vie de tous les jours, à l'école, donc, ça peut arriver.
Un choc sur le testicule, non. Ne pas avoir de testicule ou testicule abîmé avant la puberté, la prostate grossit pas.
Alors, il y a une question dont on a moins parlé tout à l'heure avec les auditeurs, mais c'est une vraie question en France, c'est sur le côté du dépistage systématique de ce cancer de la prostate. On ne peut pas parler de controverse, mais les avis sont plutôt partagés. Quand je dis controverse, pas polémique, c'est une polémique quand même ?
Un peu, parce que les deux camps se parlent pas. En fait, il y a un camp pour le dépistage, un camp contre le dépistage. Pourquoi ? Parce que le cancer de la prostate, c'est pas une seule maladie, mais c'est deux maladies différentes avec deux formes de cancer différentes, qui sont d'égale fréquence. Il y a des cancers de la prostate qui ne tuent pas, qui sont pas agressifs, qui sont dits non significatifs, et puis des cancers de la prostate qui tuent. Le problème, c'est que pour trouver le cancer de la prostate qui tue, avant qu'il ne parle, donc avant qu'il soit trop tard, parce que quand le cancer donne des symptômes, souvent c'est que la maladie est avancée, il faut dépister. Mais quand on dépiste, on va donc trouver les deux formes de cancer. Et le problème, c'est que très souvent, le mot cancer fait tellement peur à la fois aux médecins et aux patients, que même les patients avec des cancers non significatifs, qui ne tuent pas, sont traités quand même. Et donc, pour éviter ce surtraitement, une des solutions possible, ce serait de supprimer le dépistage, d'être contre le dépistage. Mais dans ces cas-là, on passe à côté de tous les cancers agressifs. Donc la meilleure façon de faire, c'est de bien soigner les gens quand on sait ce qu'ils ont, c'est-à-dire en fait de faire du dépistage du cancer. Si on trouve un cancer et qu'il n'est pas agressif, le meilleur traitement, c'est de rien faire. Mais pour ça, il faut de l'éducation à la fois des médecins, mais aussi beaucoup des patients qui peuvent ne pas bien comprendre pourquoi on a trouvé un cancer et qu'on ne le traite pas.
Et en tout cas, on peut dire qu'en France, hein, c'est de mieux en mieux pris en charge, avec une baisse sensible du nombre de décès.
Absolument. C'est alors, le dépistage réduit le nombre de décès parce que, bien sûr, quand on traite les cancers agressifs, ben, on évite l'évolution fatale. Mais en même temps, c'est au prix de quelques cancers traités alors que ce n'était pas indispensable.
Alors, on va tout de suite partir pour le Cameroun, professeur Desgrandchamps.
Priorité santé sur RFI.
Et on vous retrouve, docteur Edouard Hervé Moby. Vous vous situez à une bonne centaine de kilomètres de Douala. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour professeur.
Bonjour docteur Moby.
Dans cette ville de Nkomsamba, vous êtes chirurgien urologue sur place et directeur de l'hôpital régional sur place. Alors lors de vos consultations en urologie, les patients viennent vous voir le plus souvent pour quel type de troubles associés à la prostate ?
Merci pour la question. En fait, les patients viennent nous voir essentiellement pour 40% adénome de la prostate, 40% cancer de la prostate. Bien sûr, nous avons quand même quelques prostatites parce que nous avons une grande prévalence d'infections sexuellement transmissibles qui nous causent donc des problèmes de prostatite.
Est-ce que vous avez des chiffres au niveau national hein, pour le Cameroun, voire même pour cette région, sur la fréquence de ce type d'affection ?
Bon, c'est vrai que nous n'avons pas de chiffres précis, mais il faut savoir qu'il y a une étude qui a été menée il y a une dizaine d'années, qui montrait quand même pour le Cameroun une incidence de 93 cas environ pour 100 000 habitants. Donc, mais maintenant, concernant spécifiquement le cancer de la prostate, nous savons quand même que c'est le premier cancer urogénital du Cameroun, avec 81% environ donc des cancers urogénitaux dépistés. Et dans le cas de tous les cancers, c'est le troisième cancer du Cameroun.
Est-ce que, tout à l'heure, on a parlé justement avec le professeur Desgrandchamps de ce dépistage, avec des avis assez partagés sur la question. Est-ce que du côté du Cameroun, docteur Moby, vous constatez plutôt des consultations plutôt tardives, voire même des retards de prise en charge ?
Malheureusement, les patients viennent nous voir relativement tard. Parce que, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, dès que les signes cliniques sont marqués, hein, habituellement la maladie est déjà dépassée. C'est pour ça que nous, ici, nous préconisons vraiment le dépistage. Hein, nous préconisons à ce que les patients viennent nous voir à partir de 40 ans, qu'ils viennent déjà voir, pour qu'on puisse voir ensemble comment on supporte leur prostate. Et plus on dépistera tôt, plus on pourra avoir un traitement curatif du cancer de la prostate.
Alors, il y a le conseil, il y a la réalité. Est-ce que ce sujet, on a employé au début de l'émission ce terme de tabou, est-ce que, dans votre région aussi, docteur Edouard Hervé Moby, eh bien, la prostate n'est pas un sujet dont les hommes parlent volontiers ?
Vous savez, hein, du moins chez nous, déjà, les hommes, comme je le dis souvent, ne sont jamais malades. Donc, ça veut dire que les hommes ne viennent pas à l'hôpital. Mmh. Et pour eux, uriner de manière difficile au fur et à mesure que l'âge passe, c'est normal. Hein, c'est normal pour eux qu'un homme ait des problèmes pour uriner. Mais nous avons quand même la chance, entre guillemets, du fait que de plus en plus de malades célèbres hein, ont eu des problèmes de cancer de la prostate, donc ce qui fait que maintenant les hommes ont tendance à venir un peu plus souvent qu'avant. Et surtout que nous avons également cette chance d'avoir de plus en plus d'urologues au Cameroun. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même un peu plus de vulgarisation des maladies de la prostate. Nous les voyons de plus en plus.
Est-ce que les patients, justement, avant de recourir à vos services, de vous, médecins spécialistes et formés, eh bien, ils vont vers la médecine traditionnelle, ils emploient des produits naturels pour essayer de régler leurs problèmes ?
La médecine traditionnelle, pour nous, est notre principal, entre guillemets, adversaire. Parce que ces patients, en fait, font d'abord le tour, hein, d'abord des centres de santé informels, après des centres de médecine traditionnels, où, au bout, épuisés financièrement, au bout du rouleau, ils viennent finalement à l'hôpital. Et très souvent, nous avons des patients qui viennent pour la médecine, soit dite moderne, mais qui, entre-temps, prennent également des potions et des décoctions, dont nous ne connaissons pas forcément les ingrédients. Mmh. et nous leur disons, de toute façon, monsieur, arrêtez ça. Si vous voulez suivre la médecine traditionnelle, allez-y, mais si vous voulez suivre la médecine moderne, venez et on fera le meilleur pour vous.
Et malgré tout, vous faites pas le pour et le contre? Il n'y a pas quelques produits naturels ou quelques pratiques ou comportements qui peuvent être recommandés, justement, quand on est, par exemple, loin d'une grande ville, loin d'un centre de soins et qu'on n'a pas vraiment autrement les moyens de se débrouiller?
C'est vrai que la pharmacopée traditionnelle est peut-être développée, mais malheureusement, on a un problème de posologie, on a un problème de principe actif identifié. Donc, ce qui fait que c'est difficile pour nous de dire aux nos médecins modernes, en guillemets, de dire aux patients à aller à la médecine traditionnelle.
On comprend bien, on comprend bien.
Nous avons de la chance que, à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Douala, il y a donc un volet pharmacie où de plus en plus ils rentrent dans l'équipement botanique. Et je pense que dans les jours qui viennent, on aura au moins isolé quelques principes actifs, donc de médicaments naturels qui traitent la prostate. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourra donc leur donner spécifiquement ces médicaments.
Avoir une
Mais vous savez, oui. En fait, oui.
Oui.
Mais vous savez, en fait, dans l'imagerie populaire, il y a quelques plantes. On appelle, par exemple, ici, on appelle la prune, mais c'est pas la même prune de France, hein. Je dirais la prune du Cameroun, nous, la prune d'Afrique. Quelques plantes comme ça que l'on utilise. Oui.
Professeur François Desgranges, vous voulez réagir.
C'est intéressant parce que nous, effectivement, on utilise de l'écorce de Pygium africanum, qui, pour l'adénome de la prostate, qui fonctionne à même niveau que d'autres médicaments pharmaceutiques. Et donc, c'est peut-être le même prunier d'Afrique dont vous parlez, qui est commercialisé en France régulièrement et très utilisé.
Et d'ailleurs, cette écorce, d'ailleurs, est récoltée dans une région du Cameroun. Hein.
Ah, c'est chez vous, voilà. Ça vient de chez vous, voilà.
Donc, il y a des produits naturels qui ont prouvé leur efficacité, mais à force, bien sûr, à condition de bien les connaître et de bien les identifier. Dernière question sur la prévention, docteur Edouard Hervé Moby. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à un patient, par exemple, qui se plaint de troubles urinaires à répétition? Qu'est-ce que vous lui dites pour améliorer sa qualité de vie?
La première chose d'abord, c'est qu'il vient consulter, hein, pour qu'on sache, en fait, pour qu'on puisse avoir un diagnostic précis. Et maintenant, bien sûr, il y a toutes les mesures d'hygiène et d'alimentation saine et équilibrée, une activité physique et sexuelle régulière. Et maintenant, il y a quand même quelques produits qu'on peut lui dire de manger de manière régulière, comme les tomates. Hein, comme les pistaches qu'on appelle ici pistaches et également du poisson. Donc éviter les graisses animales. Malheureusement au Cameroun, dans certaines régions, on mange beaucoup de viande. Hein, privilégier le poisson. Et je pense que ces mesures leur permettent, avec les médicaments que nous leur donnons, donc d'améliorer la qualité de vie de ces patients.
Et si je peux renchérir, tout à fait d'accord avec vous, docteur Moby. Il y a un point, je pense que vous le faites également en routine, c'est que quand un homme vient pour des problèmes urinaires, on lui demande d'uriner dans un verre gradué toute la journée et de mesurer le volume qu'il fait à chaque fois, parce que il n'y a pas que la prostate qui donne des problèmes urinaires. Il y a par exemple simplement le fait de boire trop d'apport fait qu'on va se mettre à uriner très fréquemment. Et après, quand les hommes sont gênés parce qu'ils urinent beaucoup la nuit, il y a d'autres maladies comme l'apnée du sommeil, les problèmes cardiaques qui font qu'on fabrique beaucoup d'urine la nuit. Et donc, il y a cette évaluation toute simple et complètement gratuite qui est de mesurer le volume de chaque miction pendant 24 heures. Si on dépasse 2 litres, c'est qu'on boit trop, faut réduire. Et si la nuit, on dépasse le tiers du total de la journée, c'est que c'est pas la prostate, mais c'est l'apnée du sommeil ou le cœur. Et puis on regarde le volume de chaque fois. Le volume normal quand on urine, c'est 250 millilitres. Quand les patients ont des problèmes de vessie et pas de prostate, comme des vessies hyperactives, on va avoir des volumes à chaque fois qui vont être de 80 ou de 100 millilitres. Voilà, donc c'est une évaluation préalable. Et après, je suis en plein accord avec tout ce qui a été dit par le docteur Moby sur la diététique et l'activité physique et l'activité sexuelle, évidemment.
Et on vous remercie infiniment, docteur Edouard Hervé Moby, d'avoir été en ligne avec nous du Cameroun. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue, directeur de l'hôpital régional de Nkong Samba. Vous êtes également enseignant à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Douala.
RFI à Douala, 97.8 FM.
on a bien la confirmation, c'est bien la même plante entre
le
ce
prunier
d'Afrique.
D'Afrique
et donc comme quoi il y a des recours
le qui sont... Le africanum qui est commercialisé en pharmacie et remboursé par la Sécurité sociale.
Donc c'est devenu un vrai médicament et c'était
et de
depuis...
longue date, c'est voilà. Un des premiers médicaments de l'adénome de la prostate.
Alors on est dans la dernière partie de cet échange, on a eu des explications et c'est quelque chose qu'on entend souvent hein, quand on consacre une de nos émissions, un de nos magazines à ces troubles et à ces problèmes. Comment se fait-il que ces cancers de la prostate, professeur Desgrandchamps, soient plus fréquents justement en fonction de l'origine des uns, on peut pas dire des autres en parlant des femmes, pour une fois on va être sexiste, on parle bien de ce cancer de la prostate. Pourquoi chez les populations, chez les hommes d'origine afro-caribéenne, eh bien il y a une prévalence supérieure des cancers de la prostate?
Alors c'est probablement parce qu'il y a une sensibilité particulière aux androgènes. C'est pas encore totalement confirmé, mais c'est la piste qui est privilégiée. En fait, en fonction de l'ethnie dont on fait partie, on peut avoir un équipement enzymatique génétique un peu différent, et c'est cette hypersensibilité aux androgènes qui expliquerait la grande prévalence, la grande fréquence des cancers de la prostate et des cancers de la prostate agressifs dans les populations subsahariennes.
Alors justement, ces cancers de la prostate, tout à l'heure on a eu un auditeur qui nous a expliqué qu'il avait été traité à la fois par radiothérapie et hormonothérapie. Il peut y avoir d'autres recours encore. En fait, tout est possible, aussi bien la chirurgie que la chimio. Oui. Qu'est-ce qui va déterminer le recours à telle ou telle option?
Alors, deux choses. D'abord, la nature du cancer. On l'a dit et on le répète, il y a des cancers qui n'ont pas besoin d'être traités. Et donc, c'est l'agressivité du cancer qui le dit. Après, s'il s'agit d'un cancer agressif qui doit être traité, la forme de traitement dépend de l'extension de la maladie. Est-ce que le cancer est localisé dans la prostate? Auquel cas, les traitements, c'est soit l'ablation de la prostate complète, prostatectomie radicale, soit l'irradiation. Ou est-ce que le cancer est métastasé dans les ganglions ou dans les os, où là, c'est le traitement hormonal, donc la suppression de la testostérone. Et dans ce domaine, il y a eu d'énormes progrès faits. Récemment, on ne traite plus des patients qui ont des cancers métastasés de la prostate maintenant, comme on le traitait il y a seulement 5 ans. Il y a plein de molécules qui sortent, qui allongent de façon très significative la survie des hommes.
Alors justement, on a bien compris dans ce cas-là que l'annonce doit être un moment à la fois très particulier et très étudié, parce que entre le moment où on annonce à un homme un cancer de bon pronostic et puis un cancer métastasé, ça n'a strictement rien à voir.
Non.
C'est pas du tout le même horizon qui s'ouvre
non.
à lui.
Lorsqu'on annonce à un homme qu'il a un cancer non agressif, ben, toute la pédagogie, c'est dire qu'on n'a pas besoin de traitement. Mais en principe, cette pédagogie, elle commence avant les prélèvements. On dit aux hommes, voilà, faut faire des biopsies de prostate, il y a 3 possibilités. Soit il n'y a rien, ben, tant mieux. Soit il y a un cancer, mais s'il n'est pas agressif, il n'y aura rien à faire. Et s'il est agressif, il faudra vous traiter. Donc en principe, on prépare en amont. Après, lorsque le cancer est agressif, en fait, il faut annoncer la nature des traitements. Et la psycho-oncologie est très importante parce que un traitement bien accepté est un traitement qui aura moins de séquelles. Le problème du cancer, c'est qu'il faut admettre d'être malade pour bien guérir. Or, quand on a un cancer de la prostate, on ne sent rien. Quand il n'est pas métastasé, quand il est localisé, c'est une prise de sang avec un PSA qui a conduit à des prélèvements. Et puis, on annonce à un homme qui se porte très bien, qui va avoir 58, 60 ans, qu'il va falloir traiter sa prostate. Donc, la première étape pédagogique et psycho-oncologique, c'est admettre d'être malade pour bien guérir. Et ça, c'est une prise en charge qui est faite par des spécialistes qui sont les psycho-oncologues, en plus de l'urologue.
Alors, tout à l'heure, vous avez abordé très rapidement, justement, ces progrès, ces nouveautés en termes de prise en charge hormonale. Est-ce que, justement, en matière de recherche, de nouvelles approches thérapeutiques, professeur François Desgrandchamps, il y a des nouvelles propositions qui sont faites?
Ah oui. Encore une fois, on ne traite pas les patients qui ont des cancers métastasés comme on les traitait il y a 5 ans, avec des nouvelles molécules hormonales qui permettent d'augmenter la survie des hommes. Parce que on a dit que la prostate dépendait des hormones pour se développer. Et donc quand on supprime les hormones, qu'est-ce que fait la prostate? Elle sécrète elle-même ces hormones. Et pour survivre, ces cellules se mettent à sécréter des hormones et les nouveaux médicaments agissent sur ces hormones sécrétées par la prostate ou sur le récepteur de ces hormones. Et donc ça permet d'augmenter de façon encore une fois significative, avec peu d'effets secondaires, la survie des hommes qui ont des cancers métastasés.
On vous remercie infiniment, hein, professeur François Desgrandchamps, pour votre éclairage, toutes les réponses à nos auditeurs. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis de Paris. Et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, hein, on peut faire référence à ce livre, La prostate. On en parle aux éditions Hachette Bien-être et donc très bientôt en poche chez Marabout.
Priorité santé sur RFI.
Un rendez-vous donné au Cap-Vert demain à Praia. Il s'agit du Forum Régional VIH et Handicap. Alors, il va être question d'inclusion, des pratiques qui favorisent la prise en charge des personnes en situation de handicap, accès aux programmes de santé sexuelle, ainsi que prévention, traitement du VIH-SIDA. Ça concerne 6 pays d'Afrique de l'Ouest. C'est financé par le Fonds mondial. Et pour en parler, en ligne avec nous, Célina Ferreira, bonjour.
Bonjour, effectivement.
Vous êtes secrétaire exécutive de la lutte contre le sida à Praia. Alors, rendez-vous qui est donné au Cap-Vert, Célina Ferreira, pour réduire la vulnérabilité des personnes handicapées face au VIH-SIDA, parce que ce que l'on constate notamment au Cap-Vert chez vous, c'est qu'elles sont plus concernées que la population moyenne.
Moyenne, bien sûr, comme le Cap-Vert et dans toute la sous-région. Effectivement, demain déroulera à Praia le premier forum régional VIH, SIDA et handicap, une initiative de l'humanité inclusion avec le CCS SIDA et les associations de handicap au niveau pays. Cet forum a comme but promouvoir les stratégies innovantes d'inclusion face à la riposte au VIH-SIDA dans la région ouest-africaine. Et aussi, c'est une opportunité d'analyser la situation des personnes handicapées concernant l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive en s'appuyant sur les évidences scientifiques trouvées en 2018. Et en même temps, c'est une opportunité de plaider aux décideurs et aux autorités sanitaires de la sous-région pour créer des conditions favorables à l'inclusion des personnes handicapées.
Alors, ce que l'on constate hein, du côté des chiffres, par exemple au Cap-Vert, 2,3% de prévalence du VIH-SIDA chez les personnes en situation de handicap contre 0,6% au niveau national, c'est 3 fois plus. Et parmi les explications, Célina Ferreira, eh bien, il y a notamment le fait que ces personnes subissent davantage de violences sexuelles.
Des violences sexuelles, il y a pas mal de vulnérabilités qui affectent seulement pas le Cap-Vert, mais comme dans d'autres pays de la sous-région. Les vulnérabilités liées aux faibles connaissances des moyens de prévention, des IST, y compris les VIH, manque d'utilisation des préservatifs et d'autres moyens de prévention. Il y a aussi manque d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive et VIH, parce qu'il y a pas mal de barrières, notamment les barrières physiques, les barrières économiques, culturelles. Il y a aussi les actes de stigma, discrimination. Il y a aussi la violence du genre, surtout violence sexuelle des jeunes filles et violence sexuelle des femmes. Il faut noter aussi que dans la sous-région, la prévalence VIH est très élevée. Il varie de 2 à 4% plus élevé que dans la population générale de la sous-région. Il faut dire aussi que c'est une population très importante du point de vue démographique, mais qui reste un peu marginalisée dans les services, dans nos États et dans les services statistiques et administratifs.
Alors justement, une dernière question en ce qui est du côté de la prévention pour favoriser l'accès aux soins. Quel message pouvez-vous faire passer vers ces populations qui sont à la fois vulnérables et discriminées?
Il fallait faire valoir leurs droits d'abord. Il faut renforcer les associations des personnes handicapées et les personnes vivant avec le VIH pour faire valoir leurs droits. Il faut accélérer les services de santé sexuelle et reproductive, y compris VIH, pour avoir un service inclusif, adapté à leur incapacité, soit auditive, soit et cognitive, soit physique et aussi locomotive. Il faut créer des services humanisés. Il faut lutter aussi contre la pauvreté parce que 42% des personnes handicapées n'ont pas de revenus.
On comprend bien une prise en charge globale hein, dans le cadre de grandes politiques de santé publique qui seront au cœur de ce rendez-vous à Praia demain au Cap-Vert. On vous remercie beaucoup, hein, Célina Ferreira, d'avoir répondu aux questions de priorité santé. Et très bonne journée à vous à Praia. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour la fabrique, la réalise. C'est tout ça, Maquef, Ophélie Lassène, Didier Bleu et Laurence No. Demain, vous retrouverez le reportage de Charlie Dupiot, reportage réalisé au CHU de Nantes, au sein de l'unité d'accueil des enfants en danger, prise en charge, impact sur la santé, prévention des violences familiales. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.